bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout en meilleure santé.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, avant de démarrer l'épisode, petit message, il y a un truc qui vous aura pas échappé. Aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, les notifications, les emails et toutes les distractions, eh bien, on n'est pas hyper nombreux à se sentir très productifs. On traîne, on procrastine, on priorise pas les tâches et au final, on termine toutes nos journées sans jamais avoir accompli tous nos objectifs. Et le pire, c'est que ça peut même impacter notre santé. Par exemple, on prend pas le temps d'aller voir son thérapeute pour une petite douleur ou pour faire un check-up. On ne met pas en place une séance d'étirement, on n'a pas le temps d'aller au spa se faire masser, de se faire des bons repas, etc., etc. Et pourtant, si je vous disais qu'il existait un moyen efficace pour être plus productif, pour en faire plus en moins de temps et de se dégager un maximum de temps libre, eh ben c'est possible grâce à la courbe biologique de la performance. Alors je m'explique. Le secret de la productivité, c'est pas de passer plus d'heures à bosser ou de se rajouter un maximum d'heures dans sa journée. C'est pas possible, on a que 24 heures et des obligations. Non, l'objectif, c'est d'identifier vos différents niveaux d'énergie, vos pics de concentration, puis de répartir vos différentes tâches de travail à des moments clés de votre journée et selon ces niveaux d'énergie. Et c'est ça ce qu'on appelle la courbe biologique de la performance. Et devinez quoi ? Il y a des tas et des tas d'entrepreneurs et de sportifs de haut niveau qui l'utilisent et qui leur permet d'accomplir bien plus que n'importe qui, en tout cas que vous et moi aujourd'hui. Et alors si je vous en parle, c'est parce que j'ai une très bonne nouvelle. Mon ami Jérémy Coron, qui est spécialiste en neurosciences et qui était d'ailleurs passé dans l'épisode 76 du podcast, il vient de sortir un tout nouveau programme. Ça s'appelle Routine Haute Performance et ça va justement vous aider à décrypter votre propre courbe biologique pour vous créer une routine personnelle en fonction de vos niveaux d'énergie. Et alors, j'ai eu l'occasion d'appliquer ce modèle et perso, ça a complètement changé ma manière de bosser. J'ai eu de meilleurs niveaux de concentration, j'ai eu plus de motivation, plus de créativité, j'accomplis beaucoup plus. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez sûrement remarqué avec tout ce que j'ai lancé sur le podcast récemment. Et j'ai même pu reprendre des activités que j'avais laissées de côté depuis un moment. Alors évidemment, je vous recommande ce programme à 200%. C'est une formation vidéo en ligne sur 7 jours qui va vous apprendre à hacker votre cerveau pour en faire plus en moins de temps et pour vous dégager un maximum de temps libre. Et pour vous aider à franchir le cap, je vous ai négocié une réduction de fou furieux. Vous avez droit à moins 50% sur la formation et c'est uniquement pour vous les auditeurs du podcast. Alors pour récupérer le programme à ce tarif, vous allez sur biomecaniquepodcast.com/routine. R-O-U-T-I-N-E, et il n'y a que sur cette page que vous pouvez l'avoir à ce prix. Et tout est expliqué dessus. Mais attention, la promo dure uniquement jusqu'au 21 avril, c'est-à-dire dimanche prochain. Et alors attendez, c'est pas fini, parce que Jérémy s'engage personnellement à vous rembourser jusqu'au moindre centime si vous ne voyez aucun résultat sur votre productivité dans les 14 jours après avoir passé commande. Alors si avec ça vous n'êtes pas convaincu, je peux plus rien pour vous. Je répète une dernière fois, le programme Routine Haute Performance à moins 50%, c'est sur biomecaniquepodcast.com/routine. Et puis si vous écoutez le podcast sur Spotify actuellement, c'est encore plus simple. Vous pouvez retrouver le lien cliquable tout en haut dans la description de l'émission. Voilà, ça se termine dimanche prochain, le 21 avril. Alors foncez et maintenant, place à l'épisode. C'est bon. Bon, depuis le temps que je l'attendais en plus, et que tout le monde l'attendait cet épisode, donc je suis content de faire cet épisode avec toi. Donc Grégoire, bonjour Grégoire, déjà.
Salut Jérôme, ça va ?
C'est très bien, tu as une petite voix, on part en ASMR tranquillement.
Mais non, mais alors, quand je fais des podcasts, je me mets bien, je prends mon micro Yeti et tout de suite, ouais. Je me conditionne mentalement à poser ma voix.
Oui, ben c'est très bien, ça va plaire à tout le monde. Bon, Major Mouvement, plus connu donc sous le nom de Major Mouvement, que j'ai envie de dire la France entière connaît. T'es peut-être le kiné le plus connu de France, je vois pas qui c'est qu'il y a au-dessus de toi.
En tout cas, en termes de taille, je suis le plus petit ou l'un des plus petits. Mais c'est vrai que en termes d'audience, ouais, je pense que j'ai l'audience la plus grande des kinés à ma connaissance.
Bon, c'est pas mal du tout. On va essayer d'enchaîner un petit peu parce que t'as un emploi du temps assez chargé, donc on a un grand max, tu m'as dit une heure, donc on va essayer d'enchaîner. Tu sais que c'est un podcast où j'aime bien d'habitude prendre mon temps. On va rarement en dessous des deux heures. On est entre les deux et les trois heures.
Oh les coquins.
Ah ouais, ben, on prend son temps et c'est surtout parce que j'aime bien creuser les sujets. Mais on va enchaîner. J'ai enregistré il n'y a pas si longtemps un podcast avec Emric de M Ton Kiné, que tu connais puisque tu as fait des vidéos avec lui, où on a creusé aussi plein de sujets sur pourquoi les kinés sont sur YouTube, un peu les tendances qu'il y a, comment ça arrive, etc. Et puis je l'avais dit dedans, tiens, si j'ai l'occasion d'enregistrer avec Major Mouvement, et puis tu vois, ce moment est arrivé plus vite que je ne le pensais, ça sera peut-être des trucs que j'aimerais lui demander les premières fois où il s'est lancé, où il a créé du contenu, un petit peu, parce que t'as balisé le chemin, on peut dire. Mais avant tout ça, je vais te poser une question qui est extrêmement, qui me fait marrer. C'est dans la coutume, donc je vais te la poser. C'est pour ceux qui ne te connaissent pas, de te présenter, s'il te plaît.
Je m'appelle Grégoire, je suis kinéthérapeute manuel et enseignant, et ma passion, c'est de raconter des choses qu'on pense compliquées le plus simplement possible. J'aime vulgariser.
Voilà, et c'est un peu ce que tu fais sur réseau. J'ai récemment discuté avec un collègue qui sur un petit peu le contenu que tu proposais, ce que tu faisais, et qui m'a dit moi Grégoire, Major Mouvement, je trouve qu'aujourd'hui il est en train de devenir un influenceur. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi ?
Ouais, j'entends. Je pense qu'il y a le côté où probablement que je me suis un peu rendu mainstream. Peut-être que mon discours est devenu très démocratique, ou peut-être trop lissé, ou peut-être que il n'a pas évolué à la hauteur de ce que les gens espéraient de moi. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, je m'adresse à plus d'un million de personnes, tous réseaux confondus. Et donc forcément, les gens projettent sur moi une partie des attentes qui me dépassent. Et j'entends, en fait. Et moi, je sais où je vais. Après, si jamais ça ne va pas dans la direction que les gens attendent de moi, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Et qui picore mon contenu, qui se désabonne ou qui revienne 2 ans plus tard, ou que juste ils soient pas d'accord avec moi, en fait, c'est OK. Tout est OK pour moi. Du moment qu'on reste poli, qu'on reste courtois et qu'on ose argumenter quand on est d'accord ou pas d'accord, en fait, tout me va, moi.
Et ça ressemble à quoi, tu vois, parce que t'as un peu, comme je disais, balisé le chemin, t'es un des premiers qui a créé du vrai contenu YouTube, Instagram, vidéo, et à visée éducative, à visée informative et de santé. Avant que tu me dises un petit peu comment ça a été avant, aujourd'hui, ça ressemble à quoi ? T'es submergé de messages, parce que je sais que t'avais fait un espèce de disclaimer sur ta chaîne YouTube, par contre t'avais beaucoup de messages sur où c'est qu'on peut te consulter, quelle douleur, sachant que légalement t'as pas le droit en plus de dire où c'est que tu consultes sur tes réseaux, parce que la publicité n'est pas... Alors, comment tu gères tout ça aujourd'hui ?
Avec beaucoup de distance, je dirais que j'ai pas mal évolué de ce côté-là, parce que jusqu'au moment où tu reçois le plus de messages, c'est jusqu'à 40 000 ou 50 000 abonnés. Parce que là, les gens pensent que t'es accessible et que si tu crées du contenu, le prix à payer, c'est de faire des consultations H24 et gratuitement. Et moi, j'avais pas fait le deuil de mon activité de soins. Et pour moi, Instagram, c'était une continuité de mon activité de soins. Et donc, je répondais. Je te jure, j'étais vraiment addict à mon téléphone. Et quand les gens me disaient, j'ai mal à l'épaule, qu'est-ce que je dois faire? Je leur demandais vraiment, OK, décris-moi sur quel geste t'as mal, qu'est-ce qui te fait mal, depuis combien de temps tu as mal, quels sont tes antécédents médicaux, quels sont tes antécédents chirurgicaux. Une consultation. Parce que j'avais mon âme de soignant qui était prolongée par Instagram. Jusqu'au bout d'un moment où tu te dis, attends, je n'ai plus de vie. C'est juste plus possible, je ne peux plus répondre. Alors tu cries très fort auprès de ta communauté, tu leur dis hey, je suis pas là pour consulter, OK? Et puis toute ta communauté te dit ouais, Greg, t'as raison, t'es déjà hyper généreux dans ton contenu, les gens abusent, et tu te rends compte que même quand tu gueules, ça ne change rien en fait. Et tu comprends en fait que les gens qui t'envoient des messages en permanence, ouais, peut-être que dans le lot, ils ont un peu envie de profiter d'une question-réponse gratuite, mais globalement, c'est des gens qui ont peur, c'est des gens qui ont mal, c'est des gens qui ne prennent pas le temps de lire ton contenu parce que la tendinite d'épaule, tu l'as déjà expliqué 25 fois et que 25 fois, t'as dit sur quel signe il fallait consulter et ce que tu devais mettre en place comme exercice. Et puis, au bout d'un moment, tu finis par être un peu résigné, t'arrêtes de les ouvrir. Et puis maintenant, aujourd'hui, je me dis juste, en fait, j'éprouve de la peine pour ces personnes-là et je me dis juste, de temps en temps, je les ouvre et je me dis, tiens, lui, j'ai envie de lui répondre. Mais je ne vais pas lui répondre à lui. Je vais prendre ça comme une photo qui est la question à un instant T et je vais faire une vidéo YouTube pour répondre à tout le monde, pour que demain, ce mec-là, qui sera pas forcément ce mec-là, il trouve la réponse quelque part. Et parfois, la réponse, ce sera de dire, bah, par rapport à ce que tu me décris, va consulter. Mais ça fait flipper parce que je suis profondément soignant dans mon âme et que moi, on m'a déjà dit des trucs sur Instagram. Si le mec était venu me voir en consultation, je l'aurais moi-même déposé à l'hôpital.
Et, par la gravité des symptômes, quoi.
La gravité des symptômes et puis même le contexte. On m'a décrit des histoires de viol, on m'a décrit des AVC, on m'a décrit des pensées suicidaires. Donc forcément, quand derrière, tu dois porter ça comme bagage et que t'es soignant et que t'es habitué à ce qu'on te dise ça en face-to-face et quand ça t'arrive en face d'avoir des gens qui te disent ça, le réflexe, c'est « Ok, très bien, on est là, on va prendre le temps, on va discuter. » Toi, dans ton coin de ta tête, tu te dis « Ok, je sais que je vais devoir annuler mes 4 prochaines heures de rendez-vous. Je vais me faire pourrir et je vais me faire engueuler par tous mes autres patients qui vont pas comprendre que j'ai eu une urgence, mais t'as fait ce qu'il fallait. » Donc en fait, j'ai dû faire une partie du deuil de mon métier de soignant pour pouvoir continuer à donner des infos. Et donc c'est pour ça quand tu vois le mec me dit Major Mouvement, il est devenu influenceur. Bah ouais, parce qu'en fait littéralement, je peux pas soigner 1 million de personnes, c'est juste techniquement pas possible. Et en fait à la fin, moi ce qui me permet de m'endormir, c'est de me dire je prémâche le travail d'information, de remise en question pour que demain, littéralement quand un patient, je prends cet exemple parce que c'est celui sur lequel je suis depuis tout à l'heure, il a une douleur d'épaule et que son kiné, son ostéo, son médecin bah, lui fait des tests cliniques, lui dit bah tiens vous avez ça et vous allez devoir faire des exercices, dans un coin de sa tête, au lieu de se dire ah oui mais j'ai une calcification et moi quand j'ai une calcification on m'a dit de surtout pas bouger, bah il va se dire ah bah non j'ai vu ce kiné à bretelles qui m'a dit qu'en fait peu importe l'état de calcification d'une tendinopathie, ce qui m'intéresse c'est de trouver ce qui améliore mes symptômes et que globalement le mouvement permet d'améliorer mes symptômes. Donc tu vois, c'est ce que je te disais quand j'ai fait le deuil de mon image ne m'appartient plus, c'est qu'aujourd'hui au-delà du nombre d'abonnés, j'ai créé trop de contenu et je sais que des gens vont se faire une idée de ma personne en ayant vu une seule de mes vidéos et encore une seule miniature. Et quand tu connais ce que c'est la véracité d'une signature, parce qu'aujourd'hui, pour exister sur YouTube, bah, t'es obligé de te plier aux règles d'avoir des miniatures et des titres qui soient, je dirais, aguicheurs, attirants. La nuance avec le putaclic, parce que souvent, on peut, parce qu'il est là. Pour moi, le putaclic, c'est d'avoir une miniature et un titre qui ne correspond pas à la vidéo derrière. Moi, j'ai fait une vidéo en disant, je fais des titres à guicheurs, voilà la réponse. Parce que je considère qu'aujourd'hui, l'information, il y a tellement de désinformation, il y a tellement de bullshit, que ça nous oblige à nous qui ayons une éthique et une déontologie, de jouer, c'est très personnel hein, ce que je t'explique, hein. On peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, mais on peut essayer au moins d'essayer de jouer à armes égales dans j'ai compris quelles sont les modalités de communication pour faire en sorte que mon message soit entendu. T'es soignant aussi Jérôme et on sait bien que si jamais on devait faire passer juste une revue de littérature sur le traitement de la lombalgie ces 25 dernières années, ça emmerde tout le monde.
Oui,
faut la rendre un peu monde. Sexy, quoi.
Et c'est toi qui gères tous les ton Instagram, tes réseaux, tu les gères encore?
Alors, ça dépend de ce que tu appelles gérer. Instagram, je gère 100% de mon Instagram, y compris le montage. TikTok, je m'y suis lancé il y a 2 mois parce qu'il fallait y aller quand même. C'est aussi moi. Sur YouTube, j'ai un vidéaste qui me filme, qui me monte et parfois, je refais encore certaines de mes vidéos YouTube parce que j'aime ça. Mais c'est moi qui... Par contre, je les écris, toutes mes vidéos. C'est moi qui fais le travail de recherche aussi quand j'ai besoin d'accès à la bibliographie dans mes vidéos YouTube. Ouais, c'est... Enfin, ouais.
Comment tu gères quand, justement, t'as l'impression d'avoir donné énormément de contenu, que t'as balancé, tu vois, tu parlais d'exemple de l'épaule, t'as fait beaucoup d'exercices pour l'épaule, pour améliorer l'épaule, pour essayer de trouver les mobilités, etc. Et comment, psychologiquement, tu gères le message qui arrive de nulle part sur ton Instagram, comme tu me le décrivais, avec quelqu'un qui te pose une question très ciblée, j'ai mal à l'épaule, quand je lève le bras, qu'est-ce que je suis censé faire, et que tu te rends compte qu'il a pas, par exemple, il est pas passé sur toutes tes vidéos, sur tout ton contenu.
C'est normal.
Alors, peut-être pas sur tout, mais tu sais, un peu comme si il n'a pas pris le temps de chercher.
C'est normal.
Gros, oui, oui. Toi, tu trouves ça normal? Moi, je oui. sais que, alors, ça m'arrive pas trop souvent, mais ça aurait tendance à m'agacer, me dire, écoute, avant de me contacter ou me poser des questions, c'est précis. Déjà, il y a des informations. Toi, tu
es quelqu'un normal. Les gens, ce qui fait que les gens viennent sur ma page, c'est parce que je suis kiné. Ce qui les fait rester, c'est parce qu'ils aiment bien Greg, en fait. Or, quand il vient me voir parce qu'il a une douleur, il n'est pas en train de se poser la question du pourquoi, de savoir de Greg qu'est-ce qu'il a fait hier, pourquoi il est surbooké et pourquoi il n'a pas le temps de répondre. Lui, il a juste mal et veut une réponse. Et d'autre part, tu sais, c'est quelque chose, si je devais faire mon autocritique, la quantité du contenu que je crée, elle est indigeste pour une personne. Le seul problème, c'est que si tu ne crées pas autant, les plateformes ne poussent pas ton contenu. La croissance organique, elle était possible en 2015, elle est malheureusement plus possible en 2022. Et je suis OK avec ça, en fait, sur le fait que je crée du contenu au-delà de la capacité digeste d'un individu et que si je voudrais que ne serait-ce que 5% de mon message passe, je vais devoir le crier 20 fois plus tard, plus fort.
Tu t'es fait démonter là, je sais pas si c'est en 2015 que t'as démarré, ça a été quoi les premières foudres que t'as pris? Parce que Emmerich me disait déjà qu'il en a pris quelques-uns, et ça ressemble à quoi? Je vais juste fermer le rideau, je t'entends.
Vas-y, vas-y.
Pour deux secondes. C'est bon, je t'entends, hein, tu peux me dire.
Les premières foods que j'ai prises, c'était des confrères, mais très tôt, à 1000 abonnés, tu vois, sur Instagram. Même pas, à 400 abonnés.
C'était quoi quand on disait c'était arrête de dire n'importe quoi, c'est confidentiel.
Tu montes de la rotation externe, c'est de la rotation interne, tu sais vraiment pas de quoi tu parles. Excuse-moi, mais les points d'insertion de l'obturateur externe, c'est sur la face antérieure du sacrum, pas sur le bord latéral. Excuse-moi, mais sur le spondylolisthésis, l'extension n'est pas contre-indiquée. Elle est juste, au contraire, modifiée en fonction de la symptomatologie de tes patients. Et c'est OK, quoi. Et tu vois, ce qui m'a boosté là-dessus. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais j'aime beaucoup le personnage d'Idriss Aberkane. Il raconte une blague que j'aime beaucoup. Un client, il rentre chez un maraîcher et puis là, il y a deux boîtes et il y a une boîte avec un couvercle et une boîte sans couvercle. Et sur les deux boîtes, il y a écrit, sur la boîte avec le couvercle, il y a écrit escargot anglais et puis sur la boîte sans couvercle, il y a écrit escargot français. Et le client, il dit, mais pourquoi est-ce que les escargots français, ils ont pas de boîte, enfin, ils ont pas de couvercle et pourquoi les escargots anglais, ils ont un couvercle? Et le maraîcher lui explique, ça c'est très simple, monsieur. Les escargots anglais, si jamais il y en a un qui essaie de sortir, ils vont tous vouloir sortir. Tandis que les escargots français, si jamais il y en a un qui essaie de sortir, ils vont tous le rattraper pour lui dire de rester avec eux. Donc, je ne l'ai pas très bien raconté, mais je pense que tu as compris l'idée.
Mais je pense que j'ai compris l'idée. j'ai compris l'idée. On a tous compris l'idée. C'est que, effectivement, on a plus envie de te tirer vers le bas et te rester parmi les tiens. Enfin, te faire rester parmi un peu cette base plutôt que de te voir t'envoler et de se dire, OK, on va avec lui, on fait tous quelque chose de différent, même si on prend quelques risques.
C'est ça. Même si tout ce qu'on dit n'est pas base, parce que base, c'est péjoratif. Je suis allé dans une direction qui n'avait jamais été explorée. Est-ce qu'elle était bonne? Est-ce qu'elle était mauvaise? Moi, personnellement, c'est là où ma petite voix intérieure m'empêchait de dormir chaque nuit pour me dire, il faut aller par là, quoi. Personne ne l'a jamais exploré, il faut y aller, en fait. Et c'est pas parce que personne n'y est jamais allé que c'est mal. Juste, mec, vas-y, tu vas bien voir ce que tu vas prendre sur la gueule. Bon, ça secoue un peu au départ, et puis une fois que t'es, entre guillemets, tellement loin, tu les entends plus gueuler.
Est-ce que tu reçois encore des critiques, par exemple, du corps médical, essentiellement, puisqu'il y a toujours ce clivage entre la médecine classique, très structurée, c'est comme ça, c'est le symptôme, c'est le diagnostic, et derrière, t'as les thérapies manuelles, t'as la kiné, t'as l'ostéo, peut-être l'éthiopathie, la naturopathie, enfin, toutes ces... Alors, non, la kiné reste quand même très profession de santé, hein. Mais toutes ces thérapies qui sont pas encore considérées comme... vraiment acquis par 100% de la population comme quelque chose de prouvé, de clair. Il y a ce clivage. Est-ce que toi, tu le ressens en tant que kiné? Parce que tu fais quand même pas mal de thérapie manuelle. Et je suis obligé de te le dire, mais ça ressemble. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à de l'ostéo quand tu manipules. Et d'ailleurs, ça sera une de mes prochaines questions sur à quel moment la thérapie manuelle serait pas de l'ostéo déguisé. Mais bon, ça, c'est comme ça, je tape dans la fourmilière. Ouais, tu reçois beaucoup de critiques donc du milieu médical pour tout ça, pour ce côté un peu.
Alors, en deux temps, clairement, tu l'as très très bien compris. Il y a ceux qui sont du milieu médical. Je mets des guillemets parce que le milieu médical aujourd'hui, c'est très nuancé. Hein. C'est plutôt un espèce de gris un peu fondu que du noir et du blanc, soit il y est, soit il y est pas. Mais donc, je dirais de la part des professionnels médicaux au sens étatique du terme. J'ai très très peu de critiques. J'ai parfois des kinés qui sont experts, qui sont pas d'accord avec moi. Et quand on finit par être sur du débat d'experts, bah, chacun a sa bibliographie, chacun a son expertise, chacun a ses patients. C'est du débat d'experts. C'est toujours très intéressant du moment que c'est cordial. La chance que j'ai, et ça je le dis, mais la plupart du temps les gens ne l'entendent pas, c'est que Grégoire, c'est pas un très très bon kiné. Grégoire, il a la chance juste d'être prof en thérapie manuelle, où chaque année, il y a deux mecs qui se font toute la littérature scientifique, qui redonnent l'intégralité des dernières recommandations scientifiques sous un forme d'un cours de 28 heures, et Grégoire, il le reprend annuellement. Donc en fait, mes connaissances à moi ne sont que la vulgarisation d'une photo à un instant T prise par les mecs de l'ITMP. Donc, tu imagines tous les biais qu'il peut y avoir là-dedans. Déjà, comment tu fais rentrer toute la littérature scientifique en 28 jours? C'est un choix par les mecs de l'ITMP qui sont pas ceux d'autres organismes de formation et traduit au travers du prisme de Greg et traduit au travers de ses choix et ses mots à un instant T dans une vidéo. Donc, tout ce que je dis est forcément critiqué, critiquable, ne serait-ce que par tous ces biais, et c'est quelque chose que j'ai pleinement conscience. Ça, c'était pour la première partie, mais cependant, le cœur et le corps de mon discours est basé sur des connaissances qui font quand même plutôt consensus et qui fait qu'on j'ai relativement très très peu de critiques, et si j'ai des critiques, c'est sur des points très spécifiques. Donc finalement, sujet relativement peu intéressant car très consensuel. L'autre que tu as soulevé, beaucoup plus intéressant, si tu veux reformuler ta question pour remettre encore un petit peu de pied dans les fourmilières pour tes auditeurs.
Sur l'ostéo ?
Sur l'ostéo et la thérapie manuelle.
Mais peut-être que tu vas m'expliquer ce que représente exactement pour toi la thérapie manuelle et ta vision de l'ostéo et à quel moment on parle de thérapie manuelle, à quel moment on parle d'ostéo et évidemment c'était la formulation et pas est-ce que la thérapie manuelle ne serait pas de l'ostéo déguisé sans dire le mot ostéo. Bon, j'ai pas vraiment de parti pris. Évidemment, moi je suis ostéo, mais si tu veux, je m'en fiche un petit peu. Moi, au-delà de mon combat, au-delà de ma profession, de mon activité, moi ce qui m'intéresse, c'est plus les débats de fond, c'est discuter, un petit peu comprendre les tendances. Parce qu'en soi, je m'en fous qu'on fasse de l'ostéo, de la kiné, de la naturo, peu importe. Il y a des techniques qui se recoupent. Mais on t'a déjà targué de ça, forcément.
Oui.
On t'a déjà dit, mais attends, mais Greg, t'es ostéo. Et même dans tes commentaires YouTube, on voit très bien. Ah, j'adore tes techniques d'ostéo. Alors c'est marrant, tu dois dire, ben non, pas vraiment.
Non, même pas. Je suis comme toi. Moi, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Si jamais demain, on veut me dire que la thérapie manuelle, c'est de l'ostéo déguisé, très honnêtement, je ne vais pas à l'église thérapie manuelle tous les dimanches pour faire mes prières. Mon identité à moi, elle n'est pas celle d'une étiquette, elle est celle de mon soin et de l'amélioration de mes symptômes de mon patient. Donc je n'ai pas d'ego, je n'ai pas de parti pris là-dessus. J'ai l'étiquette thérapie manuelle parce que c'est ce que j'enseigne, mais si jamais tu veux y mettre un autre nom, c'est ok pour moi. Je ne rentrerai pas dans la guerre d'ego de un tel a fait une école d'ostéo, un tel a fait une école de thérapie manuelle, je m'en branle royalement. Maintenant, ça c'est pour la partie, vraiment le socle de mon débat, je ne rentre pas dans des débats d'ego, je rentre dans des débats techniques. Ouais. Techniquement, qu'est-ce qui devait faire la différence? La thérapie manuelle, clairement, a énormément changé, à mon sens, ces trois dernières années. Celle que j'ai apprise en 2015, c'était clairement une bonne partie, du moins. Alors tiens, on va faire ça juste avant. Petit préambule. L'ostéo, pour faire très très simple, et si on devait avoir une image un peu globale, on va dissocier le viscéral, le crânien et le structurel. Au sein même du structurel, ça va dépendre en fonction des écoles. Nous, de la thérapie manuelle, on ne fait ni du crânien, ni du viscéral. On va faire que du structurel. D'autre part, uniquement dans l'ostéo, le structurel répond à un bilan ostéopathique. Dans la thérapie manuelle, on ne fait pas de bilan ostéopathique. Donc on ne garde que le structurel pour une manipulation à l'étage. Donc finalement, d'un débat qui semblerait être ostéo versus thérapie manuelle, tu regardes juste, ok en fait, on parle d'un outil, d'une technique, mmh. qui serait la technique articulaire et uniquement la technique. Ok, maintenant parlons technique et à mon sens, quand j'ai appris en 2015 la thérapie manuelle, donc technique structurelle, c'était clairement des techniques issues des modèles ostéopathiques. On m'a appris les lois de Fayette, qui en 2015, quand je les ai apprises, étaient gravées dans le marbre. Même si dans tes mains, tu sentais bien qu'il y avait une couille dans le pâté parce que tu avais une FRS droite, puis finalement tu le manipulais de l'autre côté et deux étages plus au-dessus, tu le manipulais et tu avais quand même une amélioration de tes symptômes. Et tu disais, bon, j'ai pas fait exprès, mais le coup est parti tout seul et ça marche bien. L'ostéopathie s'est réinventée. Aujourd'hui, certaines écoles, bah, comme la thérapie manuelle moderne, a dit, bah, en fait, Fayette, c'est bien, c'est un modèle didactique pour comprendre le mouvement des arthrons les uns par rapport aux autres. Déjà qu'on se prenait les pieds dans le tapis entre la physiopathologie, la pathologie, la physiologie et puis la symptomatologie. Mais aujourd'hui, au moins, on est d'accord pour se dire, bon, c'est juste un très bon modèle pour les étudiants pour le modéliser dans l'espace. Mais en fait, l'outil numéro un pour pouvoir manipuler, ça reste votre main. Mmh. Et c'est là où finalement le cœur du débat se situe. Si tu enlèves l'ego, si tu enlèves, c'est de la thérapie manuelle, machin déguisé, juste de se dire, en fait, la manipulation articulaire, qu'est-ce qu'on veut? Et s'il devait y avoir une différence entre l'ostéopathie et la thérapie manuelle aujourd'hui, elle serait presque là-dessus. Sur la spécificité, non seulement de la technique corrective, mais de la symptomatologie qui en découle. À savoir, l'ostéopathe, à mon sens, et j'ai aucun problème pour le dire, a une meilleure main que le thérapeute manuel, pour la bonne et simple raison qu'il aura passé 5 ans sur sa technique, là où moi j'ai passé 1 an sur ma technique. On va prendre une sacro-iliaque, très simple. Technique de base qu'on apprend en premier séminaire, technique de base que vous apprenez en première année. On va pas se mentir, Jérôme. La technique de sacro-iliaque, techniquement, c'est dur. Faut en bouffer des sacro-iliaques pour être capable, à la fin, de sentir si ta barrière motrice, elle est liée juste à la raideur, à l'hypermobilité de ton patient, mais surtout de se dire, est-ce qu'elle était hante, poste, est-ce que c'était la technique indiquée par rapport à la symptomatologie de ton patient? Bref, ainsi de suite, c'est passionnant. Et on en arrive juste à cette conclusion qui va faire la différence entre l'ostéopathe et le thérapeute manuel, c'est que l'ostéopathe, il va chercher à avoir la technique corrective qui va répondre à ce qu'il a trouvé comme perte de mobilité ou comme trop de mobilité ou comme dysfonction. Là où le thérapeute manuel, et je suis largement OK pour ça, il va avoir l'image beaucoup plus symptomatologique, parfois un peu bourrine, de dire « bon, je l'ai manipulé en sacro-iliaque droite sur une antériorité, ça n'a rien changé, je vais le manipuler à droite en postériorité, ça n'a rien changé, bon, je vais lui mettre un bon gros thrust L1, L2, du moment que ça améliore mes symptômes, je partirai juste du principe que il y avait ce qui ressemblait à un dérangement vertébral mineur avec une symptomatologie type raideur et douleur. » Et quand je l'ai manipulé, il a bien répondu à ça. Et globalement, je vais le faire bouger derrière sur des exercices de, soit de mobilité, soit de renforcement autour de la sacro-iliaque. T'imagines un peu juste la densité de toutes les informations qu'on vient d'évoquer là. Il faut déjà avoir un peu de bouteille pour être capable de se dire, OK, je vois ce que dit Greg, je vois là où il s'est planté dans les mots, je vois là où je suis à peu près d'accord, et que globalement, quand on me dit bah, la thérapie manuelle, c'est de l'ostéopathie déguisée, je dis bah, soit tu n'as rien compris à l'ostéo, soit tu n'as rien compris à la thérapie manuelle, mais viens, on commence à discuter. J'ai eu ce débat-là avec un mec avec qui je m'entendais très très bien avant, et puis finalement nos chemins se sont un peu séparés. Et on a fini sur un débat d'ego, puisque quand je lui ai exposé ces points de vue-là, il m'a dit de toute façon, je sais très bien qu'au fond de toi, tu sais que tu as tort et que tu sais que c'est moi qui ai raison. Je dis, mec, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants. Qui sommes-nous pour dire qui a tort ou qui a raison? Il n'y a pas de parallèle entre le fait que j'ai 34 ans et j'ai deux enfants, mais c'est juste que pour prendre un peu de relativité et prendre un bon pas de recul, si tu veux que j'ai tort, bah si tu veux, j'ai tort. En vrai, in fine, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, c'est que si tu as un patient qui vient avec une douleur lombo-sciatique, que tu enlèves tes drapeaux rouges, que tu le manipules, si c'est indiqué et que tu ne manipules pas si c'est indiqué, que tu aies un bon discours, que tu le rendes autonome et globalement que tu sois boucher, charcutier, ostéo ou kiné, c'est juste le soir pour t'astiquer la nouille avec ton étiquette et ton diplôme. Qui s'y attend, qui
raconte. Il y a toujours une part d'ego, mais bon, tu vois, c'est intéressant parce que entre ces différentes techniques, ces différentes façons, enfin cette compréhension de la globalité, du bilan ostéo, de la technique, tu vois, là, on voit déjà que en termes de pratique, en termes d'activité, de thérapie, et puis on n'a pas parlé des autres thérapies, où je sais pas si j'aurai le temps de demander ton avis un petit peu sur d'autres choses, mais on s'en rend compte de la à la fois de la richesse. Et de la diversité qui est absolument énorme des soins qui existent en France de manière générale, en francophonie, même dans le monde entier. Rajoute à ça le contenu que toi, tu peux créer sur ta chaîne YouTube, que tu l'as dit, tu es obligé d'avoir une fréquence et une constance et une production énorme. Tu multiplies ça par le nombre aujourd'hui de peut-être de nouveaux kinés qui viennent d'arriver sur les réseaux, qui viennent d'arriver sur YouTube, sur Instagram et qui produisent du contenu à caractère éducatif, informatif, thérapeutique, etc. On peut, pour celui qui n'a pas ce background, qui n'a pas peut-être étudié, qui n'a pas été dans le sport pendant des années, qui est celui qui arrive sur ton compte, sur tes DM, sur tes messages sur Instagram, qui dit j'ai mal à l'épaule, j'ai regardé un ou deux articles peut-être, mais je sais pas quoi faire. C'est, il y a un énorme contenu, il y a énormément de propositions. Comment on ramène à quelque chose de très simple sur, on oublie la douleur d'épaule, on va être sur la santé. C'est aujourd'hui, Greg, je te dis, il y a trop de trucs, je vois trop de trucs. Qu'est-ce que je suis censé faire pour rester en bonne santé selon toi? Est-ce que je dois bouger? Est-ce que je dois prendre du collagène? Est-ce que je dois manger de ceci? Est-ce que je dois arrêter de stresser? Est-ce que je dois aller voir un naturo, un physio, un ceci, un cela? Je sais plus. Je sais plus quoi faire.
C'est hyper intéressant parce que il y a ce côté zoom in, zoom out. Faire très simple, manger, bouger. Ok, en deux phrases, tu l'as dit le bordel. Ça veut tout dire, ça veut rien dire.
C'est comme comment on fait pour perdre du poids? Tout le monde sait qu'il faut bouger plus et manger moins. Bon, très bien, mais maintenant,
tu sais, je pense que c'est toute la limite de la surconsommation de contenu et la surproduction de contenu dans laquelle on est en train de vivre. J'ai pas vraiment la réponse à la question que tu me poses, Jérôme, sur le coup, parce que je suis jugé parti d'un, mais c'est surtout que je pense que si t'arrives et que je te demande, ok, c'est qui le meilleur Avengers? Tu dis, bah mec, tu les as vus les films? Non? Dis-moi, c'est qui le meilleur? Bah, en fait, ça dépend. Moi, je kiffe Wolverine, mais on le voit quasiment jamais. Toi, tu vas aimer Spider-Man. En fait, je pense que la réponse, elle dépend tellement de tout un tas de facteurs qu'elle est difficile à donner. Donc, c'est pour ça que, tu vois, typiquement, j'adore créer du contenu, mais ça a énormément de limites. Et c'est pour ça que je quitterai jamais le cabinet, en fait. Parce qu'au cabinet, j'ai pas un million de personnes, j'ai une personne en face de moi. Et quand il me demande, ok, je dois faire quoi pour perdre du poids ou je dois faire quoi pour me mettre en santé, je dis, ok, ben, t'en es où aujourd'hui? D'où tu viens? C'est quoi? Raconte-moi ta vie, en fait. Et à partir de ce que tu me racontes, je vais pouvoir te donner une solution. Et tu vois, c'est sur ce côté, c'est ce que j'adore, micro et macro, zoom in et zoom out. C'est que je suis capable, d'un côté, de te faire un repas sur mesure juste pour toi qui vient me voir à un instant T, à 16,13€, parce que c'est le prix d'une séance de kiné en France. Mais en même temps, je vais être capable de faire une vidéo qui va être vue, j'aimerais bien, ça m'arrive pas à chaque fois, mais allez, disons par 500 000 personnes. Bah, je peux pas faire à 500 000 personnes un soin individuel, au même titre que ça aurait pas de sens si un patient venait me voir et que je lui dis, bah, tu sais quoi, regarde ma vidéo sur l'épaule, Coco, hein, et puis je reviens dans un quart d'heure quand t'as fini de la regarder, quoi. La réponse à ta question, je pense qu'elle est forcément contextuelle en fait.
Ouais, bien sûr. Et la loi du capitalisme dirait que par exemple aujourd'hui, tu pourrais mettre tes consultations, tu pourrais les au lieu de les passer de les faire à 13, tu pourrais les mettre à 150, à 200, comme si tu étais un spécialiste de renommée au moins nationale.
Ouais, bah, c'est pas quelque chose dans lequel je crois. Quand les gens viennent me voir pour mes tarifs, ils sont fixes. Quand les gens viennent me voir pour une séance de kiné avec une ordonnance, je suis au tarif de la Sécu. Quand ils viennent me voir pour un bilan mobilité, renforcement musculaire et un peu prépa physique et faire un point sur une séance de thérapie manuelle, je les vois à une heure. Je peux pas dire mon tarif pour des raisons de non-concurrence, mais ce sont les mêmes tarifs que les tarifs de mes confrères qui sont dans la rue juste en face. Parce que, pour deux raisons, pour moi, je ne veux pas que quand les gens viennent me voir, et c'est très facile de me trouver, hein, il suffit de savoir utiliser Google, je précise parce que je reçois beaucoup de DM en disant « Bonjour, vous avez l'air super, comment vous consultez ?» ou l'inverse. « Bonjour, après avoir mené mon enquête, j'ai enfin trouvé votre cabinet. » Ton enquête, excuse-moi, c'est que t'as tapé Major Mouvement Cabinet sur Google. Donc, d'ailleurs, petite information, est-ce que tu sais quand tu tapes majeur mouvement sur Google, quelle est la réponse numéro une que suggère Google?
Ton Instagram, ta chaîne YouTube.
Numéro 1, c'est mon cabinet. Numéro 2, c'est le mal de dos. Numéro 3, c'est une photo de ma femme. Donc, c'est tiens, dire si...
Est-ce que je ne vais pas aller regarder parce que je suis curieux.
Et il n'y en a pas en plus, je précise, il n'y a pas de photo de ma femme sur Google, mais c'est dire tapé, si la problématique de la hernie discale ou du débat ostéothérapie manuelle, il est bien loin. Ce que les gens veulent voir, c'est si j'exerce pour de vrai, si j'ai une vraie vie pour de vrai, ouais. Et ouais. Par curiosité, si ma meuf, elle est bonne ou pas, tu vois. Mais c'est...
ça ressemble à quoi? Parce qu'avec tout ce que tu fais, tu vois, ces quelques semaines dernières, là, avec mon compte perso, je t'ai suivi sur Instagram, je suis très peu de personnes, mais je regarde un petit peu parce que ça me permet de... voilà, je suis curieux. Et je vois que tu postes énormément, tu fais énormément de choses. D'ailleurs, on comprend pourquoi tu as un agent qui s'occupe bien de toi et qui t'organise tout comme il faut. C'est assez fou. Et je me disais, mais comment il trouve le temps? Alors, l'envie, tu l'as toujours, ça, c'est clair. Mais comment tu trouves le temps de toujours faire des plages de consultation? Et puis, je sais pas, moi, j'imagine que tu dois avoir tu dois avoir un système. Parce que si, sur 500 000 personnes, il y en a au moins ne serait-ce que 10% qui tapent majeur mouvement cabinet pour savoir s'ils peuvent prendre rendez-vous, t'es booké jusqu'en 2035.
Ah bah alors c'est très simple, donc pour te répondre à ça, je consulte le lundi et le mardi, de 10h à 22h.
Ok, grosse journée quoi.
Ouais, parce que j'aime commencer tard, finir tard, la problématique elle est très simple, c'est bien avant majeur mouvement, mon cabinet il est dans le sens des bouchons, et j'ai le luxe d'avoir un métier qui me permet de choisir mes horaires. Donc je me mets en horaire décalé, comme ça moi je mets un quart d'heure pour aller au boulot, et je commence après tout le monde, je finis après tout le monde. Ce qui me permet d'avoir les patients qui dans lesquels je me suis spécialisé, principalement, c'est toi, mon patient, Jérôme. C'est les patients actifs qui aiment faire du sport, peu importe leur âge. Enfin, je sais pas faire de pédiatrie, mais peu importe leur âge, à partir du moment où t'as eu ta puberté et que t'as un système musculo-squelettique qui répond aux normes d'un système adulte, globalement, si tu bouges, je vais avoir une réponse pour toi. J'aurais beaucoup plus de mal avec les gens qui sont sédentaires, qui ne veulent pas bouger, qui ont parfois des pathologies chroniques, et que malgré la pathologie chronique, ils ne veulent pas bouger. J'ai pas bien répondu à ta question. Ma réponse est la suivante. Comment je m'organise? Donc, les lundis et mardis, je bosse là-dessus. J'adore ça. Et j'oublie ma jambe en mouvement. Je suis obligé de continuer à créer, je fais un peu des stories parce que la story c'est nécessaire, mais ton c'est autre nécessaire. Question c'est, ah oui, mais tout simplement, je suis sur Doctolib en fait. Doctolib, c'est moi qui choisis des options. Les options, c'est tu ne peux pas prendre, j'ai fermé l'ouverture de rendez-vous au-delà de 6 semaines, et tu ne peux pas prendre de rendez-vous avant les 2 dernières semaines, tu ne peux pas prendre de rendez-vous si tu n'as pas d'ordonnance, et comme mon emploi du temps il est plein en fait.
Ouais, bon, on comprend que c'est un peu assez compliqué. C'est la rançon du succès.
Ouais, je dirais, pour faire simple, j'ai dû transformer mon activité où je suis plus un kiné, dans le sens où certains, enfin avant je voyais mes patients 2 à 3 fois par semaine, ce que je ne peux plus faire. Aujourd'hui j'ai un modèle où je vois mes patients un peu plus longtemps, mais je les autonomise beaucoup pour qu'ils aient besoin de me voir une fois tous les trimestres, quitte à ce qu'ils continuent leur rééducation chez d'autres confrères et qui me voit moi peut-être pour rebilanter, pour refaire un point, un instant T de leur situation de santé. Mais j'ai une pratique qui est très atypique mais qui me convient là-dessus. Et puis ça m'intéresse d'avoir monsieur et madame tout le monde en fait, parce que tu gardes un pied dans la réalité, de pas avoir que des youtubeurs qui font 36 séances par semaine de sport qui sont taillés au couteau, et d'avoir une épaule calcifiée d'une dame de 62 ans qui a juste du mal à faire de l'escalade, bah c'est hyper challengeant quoi.
Est-ce qu'on peut revenir aussi sur le majeur mouvement? C'est à la base ce nom que tu as trouvé, ce surnom, ce pseudo, c'est pour majorer le mouvement. Tu mets le mouvement un peu au-dessus de tout, au-dessus de la posture, au-dessus de... J'ai encore vu récemment un de tes réels, ce que tu as posté, j'ai trouvé ça marrant quand tu mets les différents... tu sais, dans un grand verre, tu mets les ingrédients de ce qui provoque une douleur ou un mal. Et la posture, c'est une toute petite cuillère, tac, et je crois qui tombe à côté en plus. pour toi, la posture, une mauvaise posture, les épaules vers l'avant, comme ça, je vais rester 2 heures comme ça devant mon ordinateur. Regarde, je mime le truc. Mm-hmm. Pour toi, ça vaut rien comparé à même si je fais du sport régulièrement, la mauvaise posture ou des mauvaises habitudes posturales, ça a si peu d'impact.
Alors, c'est pas pour moi, en fait. C'est que c'est probablement là les débats les plus houleux que j'ai, dans lesquels je ne rentre quasiment plus, et je préfère d'ores et déjà prendre une position franche. Si jamais tu as des gens qui sont intéressés, passionnés par la posture, mon discours ne va pas vous plaire.
C'est bien ça.
C'est mon discours.
Ça va faire râler, ouais. Et c'est intéressant pour ça.
Le système postural est passionnant. Et on a énormément de littérature sur le système postural, du tissu conjonctif, de l'œil, de l'oreille interne, le pied, tout ce que tu veux. On peut corriger un autre système postural. Redonner des informations, t'as des résultats qui sont waouh. Ok, système postural, c'est ok, je suis 100% d'accord avec vous. Le système de la douleur, qu'on commence à comprendre parce qu'il est extrêmement complexe. À ce jour, au moment où je vous parle, on n'a juste pas fait de lien entre une défaillance du système postural qu'on corrigerait, qui améliorerait la douleur. Du moins, pas plus que du placebo. Et le placebo, attention, c'est très mal connoté, mais moi je l'utilise systématiquement, j'ai transformé, on ne parle plus d'effet placebo, mais d'effet contextuel, et on considère aujourd'hui que les effets contextuels sont responsables de 30% de l'amélioration des symptômes, 30%, et même parfois certaines études nous parlent de 60%. Donc en gros, pour faire très simple, aujourd'hui tu prends n'importe quelle thérapie, de la posturologie, ou un mec qui tape sur un bambou, sur une pathologie, tu peux avoir une amélioration de tes symptômes, et parfois une amélioration extrêmement significative. La vraie question qu'on doit se poser, c'est si on passe tout ça au crible de la littérature scientifique, se dire, ok, bah en fait, si j'ai fait de la posturologie sur 3000 personnes, sur 3000 personnes qui avaient tous les mêmes symptômes, et que je leur ai fait tous un protocole de traitement basé sur une philosophie posturale, est-ce que je les ai améliorés de manière significative? Et si oui, au-delà du placebo? Et à mon sens, aujourd'hui, il n'y a pas de littérature qui prouve ça. Et en fait, c'est ce qui me pose problème par rapport à la posturologie. C'est que c'est passionnant. On peut en parler pendant 8 heures. On peut faire des podcasts là-dessus. On peut écrire des tas de bouquins. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas de prêcher des gens qui sont convaincus de l'intérêt du système postural. C'est demain, la réalité du terrain, c'est que t'as un patient qui vient te voir et pour 16,13€, je vais pas l'envoyer chez un dentiste, chez un orthophoniste, chez un orthoptiste, chez un podologue, parce que je sais, et on a de la littérature là-dessus, qu'à partir du moment où tu commences à avoir des pratiques qui sont en dehors des recommandations scientifiques, tu augmentes, au bout de 3 séances, de 50% le risque de passage à la chronicité. Pour faire simple, t'as quelqu'un qui vient te voir avec une douleur sacro-iliaque, et tu dis, bah c'est très simple, c'est parce que vous avez la jambe gauche qui est plus courte que l'autre, du coup ça tire sur votre psoas, ça met une super grosse contrainte sur votre sacrum qui vient en postériorisation, et cette postériorisation du sacrum, elle vient ouvrir ce petit canal L5-S1, et du coup ça met une pression sur votre racine nerveuse, et ça vous déclenche une sciatique. Et en fait cette sciatique, elle est liée à cause du psoas, parce que vous êtes sûrement le bassin légèrement décalé à cause d'un spasme au niveau du diaphragme. C'est passionnant. Toi et moi, on a dû apprendre des heures pour en arriver à ce type de conclusion-là. Et on va devoir apprendre des heures pour savoir comment libérer un psoas, manipuler une sacro-iliaque, corriger une fausse jambe longue. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, si on fait ça sur 300 patients, combien est-ce qu'on améliore sur le long terme? Versus, on fait de l'éducation thérapeutique. Versus, on a une approche critique et symptomatologique. Versus, je leur mets et je leur rebousse à faire une activité physique. Et là, on parle plus de semelle, on parle plus de psoas, on parle plus de posture. Le problème, vraiment, et c'est là où on peut avoir un débat d'expert, c'est que quand t'as un patient en face de toi, tu sais très bien que 95% des informations que tu vas lui donner vont passer à la trappe. Et si uniquement ce qu'il garde, c'est « vous êtes pas droit, vous devez vous faire manipuler, vous devez aller voir 3 professionnels de santé », ça augmente son délai de consultation. Ça augmente tout simplement parce qu'il t'a payé 16,13€ et dans sa tête, il va se dire « oula, le podologue c'est 90 balles, le dentiste, je sais pas si c'est pris en charge par ma mutuelle, en plus jeudi j'ai piscine, je sais pas si je vais pouvoir y aller ». C'est la réalité en fait. La réalité, et c'est mon combat à moi, c'est de d'abord commencer à mettre en place des solutions où on sait qu'elles fonctionnent, l'éducation thérapeutique, l'activité physique et l'approche critique et scientifique d'un problème, plutôt que juste trouver tout un tas de solutions qui sont très sexy sur le papier, mais on ne sait pas si elles fonctionnent.
Je te rejoins, je suis assez d'accord là-dessus, parce que c'est vrai que surtout pendant les études, notamment en ostéopathie, on a tendance à un petit peu se branler le cerveau sur qui c'est qui aura la meilleure chaîne, qui c'est qui aura sur le papier le meilleur enchaînement de dysfonctions qui amène aux symptômes, et de se dire putain j'ai trouvé le truc, en fait il faut débloquer C1 pour venir
c'est un problème de naviculaire gauche en rotation interne alors que c'était C1 quoi. Je suis d'accord avec toi.
C'est exactement ça. Mais si on sort de la thérapie et qu'on reste plutôt sur la personne qui nous écoute là et qui a regardé plein de vidéos et qui voit qu'elle est sur l'ordinateur et qu'elle a les épaules vers l'avant, probablement un petit pec, un grand pec qui est un peu tendu,
un peu spasmé, qui a du mal,
un peu spasmé, qui fait pas énormément de sport, ou alors les sports qu'il fait, c'est pas des sports qui vont renforcer sa chaîne postérieure, les deltoïdes, les rhomboïdes, des choses comme ça. Là, on n'est pas sur de la peut-être posturologie comme on l'entend en tant que thérapie, mais on va dire le terme posture pour le grand public, c'est-à-dire qu'il considère qu'il a une mauvaise posture. Si demain, il regarde des vidéos, il se rend compte qu'il faut venir étirer l'avant de l'épaule, ainsi que le pec, et qu'il faut renforcer en faisant, par exemple, du rowing, ceux qui ont l'habitude savent exactement de quoi je parle. Pour toi, ça c'est on est efficace, on est dans la correction de posture ou pas?
Oui, la limite pour moi, elle est entre l'aspect esthétique, l'aspect sportif. Évidemment, si tu es 8 heures par jour enroulé vers l'avant et que ton sport c'est de faire du dos crawlé ou ne serait-ce que de faire des tractions, bah tu peux avoir une limitation d'amplitude tout simplement parce que tous tes systèmes proprioceptifs, mécanorécepteurs, tout ce que tu veux, sont habitués à être toujours dans la même position. Mais pour moi, la différence, elle est là, c'est que soit on parle d'esthétique, soit on parle de performance sportive, soit on parle de douleur. Parfois, ça peut aller se juxtaposer. On va prendre cet exemple très simple. T'es enroulé, t'as les épaules vers l'avant, ce qui t'emmène à une restriction de mobilité sur de l'ouverture d'épaule, et ton sport, c'est de faire du volley, et t'as pas suffisamment de mobilité pour venir chercher la rotation externe. Bah, à ce moment-là, oui, on va associer à du travail postural et du travail de mobilité et du travail de renforcement, enfin, travail de mobilité des tissus antérieurs et travail de renforcement des tissus postérieurs, pour pouvoir faire en sorte que tu gagnes en mobilité, une range of motion, en amplitude, et que ce soit confortable. Donc, parfois, on peut avoir, en effet, un problème lié plutôt à une sur-sollicitation dans une position, trop de flexion, trop de syphose, trop de rotation interne, et une difficulté à venir chercher un schéma postural opposé. Ce qui me pose problème, moi, c'est le tout postural. Tout s'explique par le posture. C'est plus nuancé que ça. Et globalement, moi, ce qui m'intéresse, ça, c'était le côté zoom in, zoom out. La réalité, c'est que si j'ai un mec de 35 ans qui a arrêté le sport parce qu'il n'arrivait plus à faire ses services au volet et que ça lui faisait mal, je sais que s'il arrête le sport, il risque de développer des pathologies cardio-pulmonaires. Il risque de développer une sédentarité qui est la quatrième cause de mortalité au monde. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse en tant que kiné, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir trouver dans mon discours, dans mes techniques, qui vont lui convenir à lui pour que demain, il puisse retourner sur les terrains de volley, parce que finalement, le plus important pour lui, c'est lui dans 20 ans, dans 25 ans, et qu'il ait continué le volley. Et on est bien au-delà d'un petit pec un peu court, qui serait lié en fait à une carie mal soignée. Mais c'est toujours ce truc-là qui peut parfois manquer, y compris clairement dans ma genre mouvement, de contexte, de nuance. Et c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que dès que tu commences à partir dans une explication, si cette explication ne correspond pas à 100% à la personne qui t'écoute, les gens décrochent.
Oui, et puis si tu commences à contexte, parce que tout est, je t'en rejoins, et je pense que 100% des gens qui nous écoutent nous rejoignent, c'est tout est contexte. Le problème, c'est que si tu commences à contextualiser à 100%, évidemment, t'es dans une vérité, enfin, tu te rapproches d'une sorte de vérité, mais tu t'éloignes du message.
Bon,
c'est toujours difficile. Tu me dis quand tu dois filer, hein, parce que.
Ouais, on a encore un bon quart d'heure.
Parfait. Quels sont les mythes ou disons les idées reçues les qui ont la peau dure encore que tu reçois, que tu as vu peut-être cette semaine sur tu vois là j'ai abordé un peu la posture, j'ai abordé un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui pour toi reste encore dans le grand public, même si c'est le sportif moyen qui a une certaine conscience, qu'est-ce qui ne décroche pas qu'aujourd'hui tu as envie de dire ça c'est plus comme ça ou ça va plus dans ce sens-là pour garder sa santé, il faut arrêter de penser de cette manière-là.
La discordance radioclinique.
Ok, alors je vais te laisser expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas.
Ouais. aujourd'hui, 4 cas sont possibles. Prenons, allez, juste l'arthrose du dos. 4 cas sont possibles. Tu peux avoir de l'arthrose à la radio et des douleurs. Tu peux ne pas avoir d'arthrose et pas de douleur. Ça, les gens le comprennent très très bien. Il y a deux autres réalités qui existent et qui sont très 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 probables. Tu as de l'arthrose à la radio et tu n'as pas de douleur, ou tu n'as pas d'arthrose à la radio, mais tu as des douleurs. Et aujourd'hui, c'est passionnant cette explication. Aujourd'hui, nous sommes l'héritage de cette non-explication de discordance radioclinique. Je m'explique. Aujourd'hui, quand quelqu'un a mal, les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour les médecins généralistes, c'est ne faites pas faire de radio dans les 6 premières semaines de lombalgie. C'est surprenant quand même. Et l'erreur qu'ils ont fait, c'est de dire « bah oui, ça va nous faire économiser de l'argent parce que vous envoyez plein de gens passer des radios alors qu'en fait, c'est quand même assez rare de pouvoir voir à l'imagerie ce qui cause problème sur un rachis. » La vraie réalité, c'est la suivante. Aujourd'hui, tu prends l'âge d'une personne. T'as quel âge toi, Jérôme ?
32.
Faire très simple, tu as 32% de chance, si on te passe une IRM aujourd'hui, que tu aies des douleurs ou pas de douleurs, de retrouver des hernies discales, de retrouver de l'arthrose, de retrouver des becs de perroquet, de retrouver une fusion L5-S1. Que tu aies des douleurs ou que tu n'aies pas de douleurs. Discordance radioclinique. Et en fait, aujourd'hui, pour les gens, la douleur se voit à l'imagerie. Ce qui pose problème là-dedans, c'est que dans les deux scénarios où il y a une discordance radioclinique, c'est qu'on va dire aux gens qui n'ont rien à la radio, mais qui n'ont pas de douleur, bah, la douleur est dans votre tête. Non, clairement, les tissus mous peuvent générer une très très grosse douleur. Les tissus mous ne se voient pas à la radio.
Oui, et si c'est dans la tête, c'est dans le corps de toute façon. Donc.
On est d'accord. Parce que de toute façon, c'est ton cerveau qui traite 100% de tes informations, y compris celui de la douleur. Et t'as l'autre cas qui est plus compliqué. C'est des gens à qui on va faire une imagerie pour X raisons. Et on trouve qu'ils ont une hernie discale. Ou alors, ils ont un petit peu mal. Et on leur passe une imagerie. Et on trouve qu'ils ont une hernie discale. Et on leur dit, ah, vous avez une hernie discale, faites gaffe, vous allez finir paralysé. Vous devriez arrêter le sport, c'est mauvais. Ou pire, ils font déjà du sport, ils sont très bien, ils font du crossfit, ils se sont juste fait un petit spasme musculaire. Mais ils ont eu tellement mal avec ce spasme musculaire, parce qu'un spasme musculaire, ça peut faire extrêmement mal. Et pour les gens qui ne me croient pas, je vous invite à taper Nadal crampe sur YouTube. Il a une crampe au niveau du mollet, cette vidéo elle est impressionnante. Juste pour comprendre que, en fait, tu vas voir des anormalités sur ton rachis, à la radio, à l'IRM, qui sont pas forcément en lien avec tes douleurs. Et donc, on va donner des consignes aux gens qui sont censés leur faire du bien. Faites du sport, zoom out. Globalement, on sait que c'est bon. Et zoom in, bah, peut-être en ce moment, c'est un peu sensible si tu n'es pas capable de tolérer ton deadlift à 150 kilos parce que bah, tu t'es fait une petite dysfonction sacro-iliaque, parce que ça a un peu étiré sur ton nerf sciatique, ce qu'on ne peut pas voir à l'imagerie. Et qu'en fait, on s'est rendu compte quand on fait ton bilan que ça se trouve, ta hernie discale, tu l'avais déjà depuis 4 ans, mon conco, elle était complètement asymptomatique, que quand je vais venir tester tes structures, en fait, t'as un carré des lombes qui flambe de ouf, qui est extrêmement algique, qu'on peut traiter très efficacement avec un bon trigger point, mais qu'en fait, quand je mets en compression tes tests, ton rachis discal, pardon, quand je mets en compression ton disque intervertébral L5-S1 avec des tests cliniques validés, ben en fait, je ne recrée pas tes symptômes. Ben, ça veut dire quoi ? Qu'on a trouvé une hernie discale à l'imagerie, mais que ta douleur n'a rien à voir avec ta hernie discale. Et que quand bien même, le traitement pour la hernie discale, c'est de faire du sport. Et donc, en fait, tu combines à ça une croyance populaire très forte de « mon imagerie me donne l'origine de ma douleur », une explication médicale de « j'ai une dysfonction sur ma radio et elle explique la douleur », avec, en fait, sur la réalité sur le terrain, bah, la douleur, elle est multimodale. Parfois, elle peut venir vraiment. Tu peux avoir une racine qui va être comprimée par une hernie discale avec des tests cliniques qui sont positifs. À savoir, une imagerie qui est positive et des douleurs qui correspondent à mon imagerie, ça existe. Mais en fait, discordance radio-clinique, ça veut dire ce que ça veut dire. Ta radio et ta clinique ne coïncident pas. Que les seuls cas où, enfin, pardon, je reformule. Ta radio et ta clinique ne coïncident pas. C'est normal, ça arrive. Que globalement ta clinique passe avant ta radio, que les seuls cas où ta radio passe avant ta clinique, c'est en présence de drapeau rouge. à savoir, on s'aperçoit qu'en fait, il a une nécrose du corps vertébral de L5 qui est peut-être en lien avec une tumeur du pancréas. Je vais peut-être pas le soigner avec des trigger points.
On enlève le lien de cause à effet absolu qu'il y a entre un diagnostic et une douleur. Évidemment qu'il y a certains diagnostics, si tu as une fracture, il y a quand même peu de chances.
Les drapeaux rouges, on les connaît.
Que tu te retrouves sans douleur. Ce qui veut dire que globalement, alors il y avait une question tout à l'heure, mais elle est un peu passée, c'est malheureusement, parce que tu m'as parlé de, ça vient juste de me retomber en tête, tu m'as parlé de viscéral, qu'en ostéo on faisait du viscéral évidemment, et que toi tu ne faisais pas de viscéral. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toi tu ne prends pas en compte par exemple des défauts de mobilité, des raideurs, des choses qui peuvent se passer dans les... J'essaie de parler avec des mots simples
pour
qu'on te comprenne. Voilà, raideur, perte de mobilité, adhérence, accroche dans le système viscéral. Tout ça, toi, tu ne le prends pas en compte dans ta thérapie. Et ensuite, je rebrancherai sur autre chose.
Sur la partie viscérale, j'ai une sensibilité viscérale, à la fois en tant que patient et en tant que thérapeute, mais je n'ai pas l'outil pour le traiter. Donc, comment je vais fonctionner? Je vais faire mon bilan diagnostique, comme d'habitude. Et quand je vais voir que ça ne répond pas bien à la mécanique, quand je vais voir que... je vais palper un peu le ventre, qu'il y a des restrictions de mobilité, parfois des recréations de symptômes, du système parasympathique qui a l'air de déconner un peu, je vais le réorienter vers ma consoeur qui est kiné. Je vais le réorienter vers ma consoeur qui est kiné et ostéo. C'est un outil que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand on parlait de cette guéguerre. J'ai une ostéopathe à qui je renvoie peut-être 5 à 10% de mes patients pour un avis complémentaire ou pour dire, en fait, c'est pas de kiné ni même de thérapie manuelle dont vous avez besoin, c'est d'ostéopathie.
Ok, bon, comme ça la boucle est bouclée, c'est parfait, je te remercie. Je reviens donc sur l'idée de le diagnostic n'est pas directement lié à la douleur, ou en tout cas il n'y a pas un lien, comme tu l'as dit, parce qu'il y a une image qui montre ceci, que forcément ça donne cela dans les symptômes. Donc, si la douleur, elle n'est pas, elle est multimodale, il n'y a pas une cause absolue, il n'y a pas un problème, ça peut être plein de choses, mais qui peut se résoudre de manière générale par une grande tendance qui est le mouvement, la mise en contrainte. C'est la loi de l'hormèse, ça. Je fais un petit coucou à Pierre Dufresne, que peut-être tu connais, qui est beaucoup sur, qui adore parler de ça, de la loi de l'hormèse. C'est le fait de se renforcer après avec un stimulus qui te secoue un petit peu, ça te renforce, tu deviens plus fort. Et au contraire, si t'es trop optimisé, si t'es trop confortable, si t'es toujours dans ton canapé, tu tombes de ton canapé, tu te fais 10 000 fractures parce que t'as plus jamais de contraintes. Donc ça, c'est la norme. Cette idée-là.
Je la connaissais pas, mais globalement, oui. Avec la notion de progressivité dans la remise en contrainte, je pense que c'est la clé, ouais. Parce que la vie est faite de contraintes, qu'elles soient physiques, sociales, émotionnel, logistique, et qu'à partir du moment où tu sors trop vite, trop fort de ces contraintes, tu t'exposes à te casser. Faire très simple, t'as jamais vraiment travaillé de ta vie, t'as été étudiant, ça va parler à tout le monde. T'as été étudiant toute ta vie, et pour la première fois, t'es confronté au monde du travail. Ça fait bizarre, hein. Que les trucs ils collent pas aussi bien que ce que t'as vu dans les bouquins, que en fait les belles théories que t'as appris dans les bouquins, t'as Michel de la Conta qui te fait bien comprendre que ça marchera jamais. Parfois il aura raison, parfois il aura tort, mais c'est toi dans la contrainte, dans la réalité sur le terrain, que tu vas te rendre compte que t'es un peu obligé de te battre pour essayer de te faire passer tes idées, qu'il y a des fois des idées qui vont casser et puis il y en a qui vont prendre, quoi. Je suis assez d'accord avec cette théorie là.
Est-ce que ça serait pas casser encore un mythe si je poursuis dans cette idée-là, faire du soulevé de terre à 150 kilos, il y a encore pendant les 5-10 dernières années, on entendait très dangereux pour le dos, très risqué, attention, tu vas te casser le dos. Et là, j'ai l'impression que depuis quelques mois, on en revient à cette idée, limite, faites-le le dos rond, ça vous renforcera. Bon, on va un petit peu trop dans l'extrême, mais tu vois, c'est cyclique.
C'est cyclique. En fait, ce débat, il est génial et moi, j'aime beaucoup le contextualiser. On va faire en deux temps. Ok, pose juste la question aux gens. Est-ce que faire un soulevé de terre à 150 kilos, c'est bon ou c'est mauvais? J'ai envie de te dire, pose la question à des athlètes crossfitters. Qu'est-ce qu'ils vont te dire?
Ils vont dire c'est bon. C'est bon. J'ai besoin de temps.
Pose la question à des médecins. Qu'est-ce qu'ils vont te dire?
Probablement qu'ils vont dire, surtout s'ils connaissent pas, ils vont dire oula, non, dangereux, tu vas te casser le dos.
À 90%, ils te disent non. Pose la question à des kinés.
Ça dépend de quelle génération, j'imagine.
Ça dépend de... À 75%, ils vont te dire c'est bon. Pose la question à des coachs.
Eh bien, tu vois, c'est partagé. Je fais un tout petit clin d'œil à Rudy Koya, peut-être que tu connais, et qui est un peu contre, dans sa méthodologie, le soulevé terre et le squat lourd, qui, à terme, engendrerait plus d'usure que de bienfaits. Lourd, je précise, c'est juste.
Ok. Rudy Koya est, je pense, l'une des rares personnes avec qui j'ai eu un débat qui s'est terminé par « on n'est pas d'accord et on ne le sera jamais ». Et notamment sur sa vidéo sur la hernie discale, où il m'a renvoyé dans mes 22 en me disant « j'ai vu ton travail, j'aime pas ce que tu fais, ça m'intéresse pas d'échanger avec toi, et si jamais tu veux qu'on discute, regarde d'abord tout ce que je fais avant de venir discuter avec moi ». On s'est mis d'accord sur notre désaccord. Je reviens du coup sur ça, pose la question au grand public. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais de faire du deadlift à 150 kilos? Moi, je pense que le grand public, il va se pencher de l'avis des médecins, à mon avis.
Je suis d'accord.
Médecins qui, malheureusement, dans leur cursus médical, entre soigner la rubéole et pouvoir diagnostiquer un âge osseux, n'ont pas un cours de soulevé de terre à 150 kilos. Ils mériteraient, et ça leur ferait tous du bien, mais non, ils n'ont pas ça. Maintenant, deuxième question. Est-ce que faire un soulevé de terre dos rond, un Jefferson curl, repose la question aux gens. C'est bon ou c'est mauvais? Alors là, je pense que les 75% de kinés qui étaient favorables à le faire dos droit, quand tu leur demandes est-ce qu'on peut le faire dos rond, bah non, parce qu'en fait, on nous a tous appris que quand tu étais dos rond, tu augmentais de 300% ta pression sur les disques intervertébraux. Ah, il y a un tic. Il y a un tic, parce que cette étude, elle date des années 70, elle a été faite sur des cadavres. Et en fait, on a appris pour genre argent comptant.
Ça fait des exercices
pareil,
de cadavres.
Un mec mort et un mec vivant, que c'était pareil. Bah non, en fait, t'as quand même tout un système musculaire qui fait que quand t'es vivant, bah t'as un peu plus de force que quand t'es mort. Et que probablement la contrainte mécanique, elle va plutôt sur tes muscles quand ils sont engagés, quoi. Donc, la question de savoir si on peut le faire, je crois que tu peux pas te tromper en disant, du moment qu'on est progressif, on peut le faire. Avec la limite qu'on sait aujourd'hui, et c'est un débat qu'on a eu avec Emeric, et je suis 100% aligné avec Emeric, débat qu'on a eu avec cerveau musclé où on n'est pas aligné, ou cerveau musclé qui est kiné, très pro-science, qui dit vous pouvez soulever dos rond jusqu'à 150 kilos, mais en fait, en réalité, moi, il y a un mec que j'adore beaucoup, c'est Squat University, et lui qui dit, oh les gars, on n'a jamais étudié, en fait, au-delà de 25 kilos un Jefferson curl, donc avant de vous dire, vous pouvez tous soulever dos rond sur votre deadlift, en fait, bah, juste oser dire, on ne sait pas. C'est probablement athlète dépendant, c'est probablement mode opératoire de l'entraînement dépendant. Et si tu vois les strongmen qui soulèvent dos rond, bah, peut-être que c'est lié sur le fait qu'ils s'entraînent 6 heures par jour à soulever dos rond et qu'ils ont tout un objectif de vie qui tourne sur uniquement soulever le plus lourd possible. Est-ce que ça veut dire que Bernard, 43 ans, qui n'est même pas capable de toucher le sol avec ses pieds, tu vas lui dire bah, « Coco, t'inquiète pas, tu peux soulever dos rond et la biomécanique YOLO, on s'en fout bah, ». Je pense qu'il y a peut-être un point en fait où il y a un compromis à trouver entre la biomécanique et les capacités. Je vais... 2 secondes, Jérôme, excuse-moi, c'est ma femme. Yes.
Pas mal tout ça. Hein.
Ouais.
Pas mal du tout. Bon. Je pense qu'on va bientôt terminer, puisque le temps imparti est quasiment écoulé. Je pense que... Tiens, est-ce que tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît, sur la plateforme? Tu sais, il y a un petit micro sur ton truc, cliquez juste dessus. Voilà, c'est ça. Je t'avais mis en mute pour parler, mais finalement, c'est bon, t'es arrivé vite. Écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'on arrive à l'heure et j'ai pas envie de te mettre en retard parce que j'ai envie de te remercier déjà d'avoir accepté cette invitation. Ça a été un processus de faire quelques échanges mail avec ton agent et c'est là où j'ai compris que t'étais quelqu'un qu'il fallait réserver à l'avance et c'était vraiment pas facile, mais j'avais aucun doute là-dessus.
C'est pour ça que
je te remercie. Je veux pas te mettre en retard. Je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Et j'ai essayé de clac-clac d'enchaîner un petit peu ce que je pouvais, les questions qui me venaient en tête. Je vais pas te poser les trois dernières questions de fin parce que je vais, dans mon inconscient et dans mon conscient, garder l'espoir d'un épisode futur dans peut-être 1-2 ans, je sais pas, on verra si le podcast
existe
toujours. Beaucoup plus long dans le sens où j'essaierai de savoir pour plus
simple. Il y a l'option, ils peuvent mettre des commentaires, les gens, sur les podcasts?
Ils sont sur YouTube. Jusqu'à présent, les podcasts entiers sont sur YouTube. Peut-être que ça changera, mais ils peuvent
en commentaire si vous voulez un épisode 2.
Voilà. Et allez-y, voilà. Foncez, hein, parce que j'ai attendu lourd. Et puis, j'ai encore beaucoup de choses à lui demander et tout un parcours à retracer. Merci. Je ferai l'outro après.
Je coupe, je descends parce qu'il y a mon fils qui pleure. Jérôme, je dois vraiment filer.
Parfait. Voilà, je vous reprends solo pour terminer cet épisode. Donc c'était génial. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié cet épisode avec Major Mouvement, qui était un peu plus court qu'à l'accoutumée. Et puis on est obligé de se plier un petit peu à l'emploi du temps de certains invités. Vous savez qu'ici on aime bien prendre son temps, que j'aime bien faire des épisodes qui sont parfois longs, où on couvre énormément de choses. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de thèmes que j'aurais aimé aborder avec lui, vraiment creuser un petit peu plus dans les débuts, dans des astuces santé, parler un peu des tendinites, tout ça. Je sais qu'il en a déjà parlé dans d'autres contenus. Mais c'est toujours des sujets qui sont intéressants à aborder, surtout avec quelqu'un comme lui. Je suis tout seul, hein, comme je vous l'ai dit. Grégoire n'est plus avec moi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez le noter si vous avez apprécié, si vous aimez le podcast biomécanique. Je vous encourage à noter le podcast sur Apple Podcast, donc il y a l'application par défaut des iPhones. La petite application violette, un petit 5 étoiles avec un commentaire, ce que vous aimez sur le podcast, qu'est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous l'écoutez tout le temps, est-ce que vous l'écoutez de temps en temps, pourquoi vous le recommanderiez à quelqu'un. Et puis récemment, Spotify depuis quelques mois là, Spotify permet de mettre des notes également sur les podcasts, chose qui n'était pas possible avant. Donc je vous encourage tous à foncer, si vous aimez l'émission, allez m'exploser cette barre d'évaluation, donc sur le podcast biomécanique sur l'application Spotify, un petit 5 étoiles. Pareil, je pense que au-delà de faire d'améliorer le référencement, je sais pas si vraiment Spotify permet d'améliorer le référencement encore, mais c'est juste que ça réconforte dans l'idée de continuer à faire ces épisodes, d'inviter d'autres invités, d'insister, de batailler. C'est pas toujours facile d'avoir des invités qui sont populaires, qui ont des trucs hyper intéressants à raconter. Certains sont moins populaires et ont énormément de choses à raconter, mais voilà, avoir accès à Grégoire aujourd'hui, c'était plutôt cool. Partagez ces épisodes en masse, hein, si ça vous plaît, que vous voulez propager la bonne parole au-delà de laisser une note, hein, vous pouvez toujours laisser envoyer cet épisode à un de vos amis, à un membre de votre famille qui se pose des questions sur est-ce qu'il faut soulever lourd, est-ce que l'ostéo c'est mieux que la kiné, qui c'est qui a raison, est-ce que les débats sont si importants, ils sont si peu importants, et un peu tous les thèmes qu'on a dit, hein. Partagez-le, envoyez l'émission, faites une capture d'écran et vous pouvez le mettre en story sur Instagram également et m'identifier à Biomécanique Podcast, qui est l'Instagram du podcast, et identifier Grégoire pour cet épisode-là. Voilà, j'espère revoir Grégoire bientôt, d'ici quelques mois. Donc vous avez entendu, hein, dropez tous des commentaires, lâchez, allez-y, encouragez-le à revenir, dites-nous ce qui vous a plu, sur quel sujet vous aimeriez l'entendre sur ce podcast pour un autre épisode. Sur YouTube, comme je l'ai dit, vous pouvez laisser les commentaires sur YouTube, c'est aujourd'hui peut-être le plus facile, le plus pratique. N'hésitez pas à me faire vos retours directement en privé aussi, hein, que ce soit sur l'Instagram en message privé, je reçois tous les messages et j'y réponds à tous. Je suis loin d'être aussi submergé que Grégoire. Et puis sinon, en privé, pour ceux qui veulent m'envoyer des mails un petit peu plus longs, là, contact@biomecaniquepodcast.com. En tout cas, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode, chaque lundi. Épisode du podcast biomécanique. D'ici là, portez-vous bien. Et puis à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique, je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.